Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce deuxième numéro Patara du mois de mars 2022. Le débat politique d'aujourd'hui porte sur la loi de parité en République centrafricaine. En l'instar des autres femmes du monde, les centrafricaines ont célébré la journée mondiale des droits de la femme. Elles ne doivent plus être marginalisées, maltraitées, méprisées, reléguées au second rang. Bref, si ces pratiques existent encore, elles sont prohibées et punies par la loi universelle ou par les juridictions de leur pays. L'article 6 de la Constitution stipule que tous les êtres humains sont égaux devant la loi, sans distinction de race, d'origine ethnique, de région, de sexe, de religion, d'appartenance politique et de position sociale. La loi garantit à l'homme et à la femme des droits égaux dans tous les domaines. Il n'y a en République centrafricaine ni sujet, ni privilège de lieu de naissance, de personne ou de famille. Fin de citation. Et pour corroborer cet article de la Constitution, le pays a voté la loi de parité fixant à 35% le quota des femmes dans les nominations, les prises de décision, etc. Question Patara du jour. Cette loi de parité est-elle respectée? Les conflits armés à répétition qui ont pour corollaire les violences sexuelles, les exactions commises sur les filles et les femmes, le taux inquiétant du féminicide ces derniers temps, les violences morales vis-à-vis de leurs conjoints ou de leur chef hiérarchique. Bref, la liste est longue. Peut-on dire que les droits de la femme sont respectés? Nous allons en savoir davantage dans ces discussions démocratiques. Et pour en parler, le plateau du premier média centrafricain, Radio Ndeke Luka, reçoit Madame Lina Ekomo. Bonjour.
Bonjour Armando.
Présidente du réseau des femmes leaders du Centrafrique, ancienne ministre. Arlette Sombodibele, avocate et membre de la société civile, ancienne ministre des Eaux et Forêts. Madame, bonjour.
Bonjour Armando.
Et aussi Madame Léa Mbouadoumta, bonjour.
Bonjour.
Actuelle ministre du Commerce, plusieurs fois ministre et ancienne vice-présidente du Conseil national de transition. Armando Nguendi, c'est moi. Tout de suite, nous lançons le débat.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndeke Luka.
Une fois de plus, bonjour à tous, à toutes les femmes avec grand H. Je vous aime bien et je vous souhaite bonne célébration de la journée de vos droits. Ouvrons ce débat avec vous, Madame Léa Mbouadoumta. Est-ce que la loi de parité est respectée dans ce pays en ce moment?
Merci beaucoup pour l'opportunité que tu nous donnes pour nous permettre de faire le point sur cette loi pour laquelle les femmes de toutes les organisations de la société civile ainsi que les jeunes se sont mobilisées en 2016 pour appuyer au niveau de l'Assemblée nationale pour que cette loi soit votée puis promulguée par le président Faustin Archange Touadéra. Donc, au jour d'aujourd'hui, vous posez la question de savoir si les droits des femmes sont respectés. Nous sommes aujourd'hui dans un pays qui sort de 40 ans d'instabilité. Et si nous parlons de droits, nous ne parlons pas que des droits de la femme, même les droits en général, pour le moment, ne sont pas encore entièrement respectés. Non pas parce que quelqu'un ne veuille pas de quoi que ce soit, mais c'est parce que l'instabilité s'est enracinée et a donné de très mauvaises habitudes déjà au niveau de ceux qui sont chargés de dire le droit. Et ensuite, au niveau de nous-mêmes, les femmes, beaucoup d'entre nous ne savent pas encore qu'il existe un texte qui les protège. Donc voilà le défi que nous avons à relever pour que cette loi soit respectée. Et nous qui sommes en position de leadership, nous avons cette mission-là, de continuer à faire le plaidoyer parce que il n'y a pas meilleure protection que la loi et nous sommes en bonne position pour continuer à faire le plaidoyer afin que nos sœurs, nos filles, nos mamans elles-mêmes connaissent leurs droits et qu'elles se défendent parce que attendre que quelqu'un vienne vous défendre, ça peut prendre du temps et il peut se passer beaucoup de choses. Donc voilà un peu ce que je peux dire pour ce qui concerne le respect des droits de la
femme.
On
va écouter Madame Sombodibele sur cette question du respect de la loi de parité et des droits de femmes dans ce pays.
Il s'agit plutôt de l'applicabilité de cette loi parce que le quota de 35% est-il respecté lorsque l'on sait que dans les institutions, la présence féminine est évaluée seulement à 17% dans les institutions de prise de décision. Donc c'est sûr que la loi n'est pas totalement appliquée, respectée. Mais je pense que, comme disait Madame Mboa, il y a une question de formation. Il faut déplorer le fait que les femmes elles-mêmes ne connaissent pas cette loi Et l'occasion aurait été belle d'en parler lors de la célébration de la journée du 8 mars, qui est une journée, comme vous le savez, au cours de laquelle a été instituée pour défendre la situation des femmes. Cela venait d'un combat de femmes aux États-Unis qui étaient des ouvrières du textile qui se sont mises en grève parce qu'elles dépassaient les heures de travail, elles étaient exploitées. Et le prix à payer a été leur exécution. Donc quand on parle du 8 mars, il faut se souvenir de cela. C'est l'international socialiste qui, par la suite, a décidé que cette journée serait une journée consacrée à la célébration des droits de la femme, la situation des droits de la femme. Donc non, je pense qu'il y a un déficit de formation chez nous, des femmes, pour savoir quels sont leurs droits. On ne peut pas leur reprocher. Il nous appartient à nous, de la société civile, de s'organiser pour que nous mettions à la disposition des femmes de différents secteurs, pas toujours les intellectuels, bien que parmi les intellectuels, il y en ait beaucoup aussi qui ne savent pas ce que signifie cette journée. Il nous appartient donc à nous, de la société civile, de créer des opportunités par des ateliers, par des conférences, pour que les gens sachent bien de quoi nous parlons lorsque nous parlons quota hein, de 35%, lorsque nous parlons de la loi de parité qui, elle, est là et qui ne demande qu'à être appliquée. Je crois que c'est ça.
Madame Ekomo, sur cette question de parité et du respect des droits de l'homme, des droits de la femme, si vous voulez bien, dans ce pays.
Oui, au regard des indicateurs concernant le secteur du genre, on se rend à l'évidence que la loi sur la parité est timidement appliquée dans notre pays. Cette loi a été mise en branle depuis 2012, c'était sous le gouvernement dirigé par son excellence le professeur Touadéra. Ensuite, la loi a été votée au mois de novembre 2016, puis promulguée pendant la même période par le chef de l'État. Alors, ça fait plus de 6 ans maintenant que cette loi a été promulguée. Mais quand nous voyons la courbe même d'ascension des femmes au poste de responsabilité dans notre pays, on constate que leur représentativité ne dépasse pas en moyenne les 15% à tous les niveaux. À tous les niveaux, ça veut dire qu'il y a un problème. Pendant 6 ans, on n'a pas pu franchir le cap des 15% ces derniers temps. Il y a eu certes des femmes qui ont été nommées à des postes de responsabilité, mais cela ne suffit pas.
Du poste de responsabilité, mais quel poste aussi ?
Justement,
ministre, mais oui.
Justement, il n'y a pas que les fonctions de ministre qui peuvent permettre aux femmes de contribuer valablement au développement de leur pays. Faire une fixation sur cet indicateur serait une erreur. Nous devons aborder la question de parité sous l'angle de la valorisation du capital humain de notre pays. Vous savez que maintenant, au niveau international, il y a un indicateur du capital humain qui a été mis en place. Justement, c'est pour évaluer la capacité de développement d'un pays au regard de son potentiel. Et ce potentiel est d'abord constitué des ressources humaines. Et pour la RCA, ces ressources humaines sont constituées à plus de 50% des femmes. Et quand on prend les composantes de cet indicateur en termes de qualification, en termes d'accès à l'éducation, en termes d'accès aux soins de santé, il y a un problème. Et c'est pour dire qu'il y a un travail de fond à faire. Il ne suffit pas de nommer quelques femmes à des postes de responsabilité pour dire qu'on est en train d'appliquer la loi sur la parité, qu'on est en train de faire la promotion du genre, qu'on est en train de défendre les droits humains de la femme. Quand autour de soi, on voit que les violences faites aux femmes sont encore là, il y a encore un grand nombre de femmes qui n'ont pas accès à l'emploi, qui n'ont pas accès à l'éducation, qui n'ont pas accès aux soins de santé, il y a un problème. Vous savez qu'au niveau international, la République centrafricaine demeure le dernier sur l'échelle du développement humain. Demeure également le dernier sur l'échelle de l'indice du capital humain. La République centrafricaine est également le premier pays au monde où le taux de mortalité maternelle est le plus élevé. Tout cela doit nous interpeller. Donc, on doit aborder cette question des droits humains et de la loi sur la parité sous l'angle de la valorisation du capital humain, comme je viens de le dire. Et si on ne regarde que le nombre des femmes qui doivent accéder à des postes de responsabilité, ce serait une grande exclusion
que nous sommes en train de faire. Va écouter madame.
Ce serait une grande exclusion puisque la majorité ne dispose pas des compétences nécessaires pour arriver à ce niveau.
Mais puisque aujourd'hui, comme vous l'avez déjà dit, madame Mouadoumta, avec cette question, on célèbre le 8 mars, c'est seulement les habits, les foires, de quoi manger, de quoi boire, c'est ce qui se fait actuellement en République africaine. Et le 8 mars, c'est comme si c'est une grande fête, mais beaucoup de femmes ne maîtrisent pas encore ou ne connaissent pas ou méconnaissent pourquoi on a décrété cette journée. Mais vous avez déjà parlé de sensibilisation, mais on se rend compte que tout se fait entre surtout les femmes un peu éclairées ou éveillées ou intellectuelles, mais la basse classe ou bien la masse, comment on va faire pour celle-là?
Mais je pense que c'est ce que nous avons dit au départ, que la plupart des femmes méconnaissent leurs droits. Elles ne savent pas qu'elles ont des droits. Et elles s'accrochent aux habitudes, les habitudes de soumission, les habitudes de festivité. Donc, comme vous avez vu, le 8 mars, chacun va avoir un pagne, chacun va avoir un cadeau. C'est parce que justement, elles ne savent pas encore qu'il y a plus de 100 ans, des femmes de l'international socialiste, des femmes d'Europe, des États-Unis, de la Suisse, de la Russie, se sont mobilisées pour réclamer leurs droits parce qu'elles n'en avaient pas du tout. Et aujourd'hui...
Mais comme vous l'avez dit, ce n'était pas ici.
Oui.
Le début de ce combat, c'était ailleurs. Et on a importé pour faire la même chose en Centrafricain.
Absolument.
Mais est-ce que cela a été bien indiqué au départ?
Mais nous,
parce qu'aujourd'hui, c'est seulement la fête, c'est seulement les pagnes
c'est un défi que nous devons relever dans les campagnes de sensibilisation que nous devons faire auprès des femmes. Bon, vous avez vu le ministère de la promotion du genre, par exemple, cette année, n'a pas fait des stands où les gens vont boire et manger. Donc, c'est déjà un petit pas en avant. Bon, que les gens portent des pagnes, d'accord, mais avec les pagnes, il faut connaître ses droits. Et c'est là où nous avons du travail à faire en allant auprès des femmes. Au moment où nous vous parlons, il y a des ateliers qui sont en train d'être organisés dans les arrondissements, dans les villes de Bangui, pour mobiliser les femmes pour qu'elles connaissent leurs droits et qu'elles s'affirment. Parce que c'est à travers elles que la loi va être appliquée. Ce n'est pas au niveau du gouvernement. Les femmes elles-mêmes doivent s'imposer courageusement et surtout s'entendre sur les compétences de chacune d'elles. Pas les liens de parenté, pas les liens d'amitié, mais vraiment que nous nous affirmions par notre travail et progressivement nous allons y arriver. En Europe, elles ne sont pas arrivées en 2-3 jours. Et même aujourd'hui, ils continuent d'avoir des difficultés. Donc nous aussi, avec notre faiblesse au niveau de la sécurité, avec notre faiblesse au niveau de l'analphabétisme, nous allons y arriver si nous nous y mettons et si nous identifions les vrais défis, ensemble nous pourrons y arriver. Et moi je fais confiance aux partenaires qui sont aujourd'hui à nos côtés pour nous appuyer. Je pense qu'il est question que nous-mêmes nous nous organisions. Ensemble nous pouvons relever ce défi avant 2030.
Je rappelle à nos auditeurs que nous avons tenté avant d'avoir la ministre du genre pour parler de cette question aujourd'hui à tous nos auditeurs, mais voilà, on y revient. Mais quand j'écoutais tout à l'heure madame Ekomo parler de la situation de non-accès à l'éducation, de la formation des femmes, avec cette allure, madame Sombo Dibélé, pensez-vous que d'ici à 10 ans, le pays pourra avoir des ressources féminines pour appliquer ce quota de 35%?
Je ne pense pas et je pense d'autant moins que dans l'heure, il n'y a rien qui soit fait pour une accession effective. Pour une accession effective d'un grand nombre de jeunes filles à l'éducation. Il y a un problème déjà au niveau de l'instruction. Vous savez, j'ai la chance d'avoir appartenu à cette génération qui a bénéficié des enseignements d'instruction civique et de leçons de morale avant chaque cours. Et je pense qu'il faudrait que ce soit remis au goût du jour. Déjà pour celles de nos filles qui peuvent bénéficier de la scolarisation. Dans l'arrière-pays, parce que notre pays ne se limite pas à Bangui, quand vous voulez que d'ici 6 ans, la loi sur la parité puisse faire ses preuves, puisse atteindre un quota qui s'approcherait des 35%, le but est d'arriver à 35%. Mais qu'en est-il des jeunes filles de province? Je parle de Obo, je parle de Bria, je parle de toutes ces zones où j'entends dire qu'il n'y a pas de scolarité, que le palliatif, ce sont les maîtres parents qui souvent eux-mêmes apprennent plus d'erreurs aux élèves qu'ils ne font monter leur niveau à un niveau appréciable. Donc je pense que pour ce qui concerne donc le but recherché, on n'y arrivera pas si des moyens efficaces ne sont pas mis déjà au niveau du budget pour que le budget de l'enseignement soit conséquent. Vous savez, la jeunesse d'un pays, c'est l'avenir de ce pays-là. Hein. Nous partons pour laisser toute cette jeune génération. Qu'observons-nous en ce moment ? Nous observons qu'il y a dans la formation de nos étudiants, de nos élèves, un déficit criard. Maître Boli Goumba a publié dans le réseau social WhatsApp son inquiétude concernant déjà les apprenants. Il dit que dans une société où nous avons quand même au sommet des institutions, des gens qui sont des apprenants, qui apportent le savoir aux autres, on observe déjà à ce niveau-là des déficits. Alors qu'en est-il de ceux qui doivent apprendre de ceux-là qui ont déjà appris et qui sont censés.
Et donc, est-ce que vous accusez à ce moment la politique de l'éducation qui devrait former et préparer ces ressources humaines de demain ?
Je n'accuse pas, j'indexe. Il faut impérativement que l'accent soit mis sur l'enseignement. Il faut que les représentants de la nation puissent faire entendre leur voix parce que notre jeunesse est en péril. Ce n'est pas l'heure d'accuser pour accuser. Nous savons bien à quelles difficultés notre pays fait face. Donc il s'agit plutôt de conseiller pour que le regard soit porté sur ce qui est capital. Madame Ekomo l'a dit ici, il y a le secteur de la santé et il y a l'accès
à l'éducation.
À l'eau potable.
Oui, à l'éducation, à l'eau potable et tous les secteurs dans lesquels sont concernés toute la population et spécifiquement les femmes doivent faire l'objet d'une grande attention. Tout à l'heure, Madame Mboua a parlé de la responsabilité des juridictions. Nous parlons de la situation des femmes. Il ne faut pas feindre de ne pas savoir quelle est cette situation autant à Bangui que dans les provinces. Je le sais de par mon métier, j'ai des dossiers sur des situations de viol de mineurs de 12 ans, de moins de 12 ans. Mais que se passe-t-il au niveau des juridictions ? Bien souvent, vous avez ce système dit de correctionnalisation de l'infraction. Le crime, le viol est un crime. Mais lorsque celui qui est chargé de dire le droit correctionnalise pour en faire un attentat à la pudeur, de crime on passe à délit, il y a un problème. Il faudrait que l'on puisse compter sur la justice, non pas pour qu'elle soit rendue au bénéfice de parents, d'amis et connaissances, mais qu'elle soit rendue réellement au bénéfice du droit. Ce n'est pas pour rien que Dame Justice a les yeux masqués. C'est pour ne voir que le droit, n'entendre que le droit, ne pas céder à d'autres sons de cloche que le son de cloche de la loi.
Oui, Madame Léa Mboua Doumta, on a un moratoire de 10 ans pour l'application de cette loi de parité, mais est-ce qu'on a commencé à préparer ces femmes pour espérer atteindre les objectifs ou l'objectif ?
Avant même que cette loi n'arrive à l'Assemblée nationale, les femmes se sont mobilisées pour apporter des contributions et pour pousser à sa promulgation. Maintenant, pour l'application, les organisations féminines, les jeunes n'arrêtent pas. Ils continuent la sensibilisation auprès des communautés à la base. Si nous prenons le cas des élections locales à venir, nous avons pris le devant pour aller dans les communautés, pour expliquer que lors de ces élections, nous devons respecter la loi de la parité. Donc les candidatures doivent tenir compte du quota des femmes. Nous prenons le devant pour le moment.
Mais malheureusement...
Non, il n'y a pas de malheureusement.
On n'a pas pu, atteindre l'objectif. Parce que combien de femmes candidates ?
Nous avons tiré les leçons de ce que nous avons vu pendant les élections législatives. Et c'est sur cette base que nous cherchons à améliorer les choses. Et nous ne parlons pas malheureusement parce que nous voulons contribuer à améliorer les choses. Et si nous voulons améliorer les choses, nous devons rester positifs et déterminés. Donc voilà notre position. Nous voulons que lors de ces élections municipales qui s'approchent, les femmes soient nombreuses, les jeunes soient nombreux
à postuler. Et aussi, pour que cette loi soit... c'est pas par une baguette magique qu'on va changer des habitudes qui ont été inculquées pendant des décennies.
Et c'est cette habitude que je disais tantôt que c'est un peu difficile parce que...
Mais la vie n'a jamais été facile.
Même certains partis politiques n'ont pas pu respecter parce que ça manque.
Oui, mais justement, d'abord, pour faire la politique, il a fallu du temps pour que les femmes commencent à s'engager. Même aujourd'hui, vous allez compter combien de femmes politiques. Donc, c'est tout ce travail que nous continuons de faire et il faut améliorer l'environnement politique pour que les femmes puissent s'impliquer davantage. Et tant que les armes vont continuer à circuler, il ne sera pas facile d'avancer dans ce travail-là. Et il y a aussi la superstition. Quand nous parlons des élections locales, les jeunes, les femmes, elles disent « Ah, le poste de maire, là, le responsable, si vous le faites partir de là, il va vous tuer. » Donc, c'est tout ça là que nous sommes tenus de contribuer à corriger en mettant aussi à contribution les organisations, les confessions religieuses, parce qu'ils ont beaucoup d'influence sur les populations et les communautés à la base. Donc voilà le travail que nous voulons faire, tout en sachant que c'est difficile. Mais nous savons que la vie est difficile et nous allons continuer à faire ce travail de plaidoyer pour pouvoir y arriver.
Madame Ekomo, on constate que la lutte pour vos droits, hein, les femmes, se fait à un certain niveau, ou du moins entre un groupe de leaders éclairés, sans associer la masse derrière vous. Ne dit-on pas que l'union fait la force?
Cette affirmation n'est pas vraiment juste.
Ouais.
Parce qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'évolutions au niveau de l'activisme féminin dans notre pays. De plus en plus, les femmes se regroupent au sein des coordinations. Et donc, quand il y a une situation qui touche aux droits de la femme, c'est l'ensemble des femmes qui se mobilisent. Nous en avons fait la démonstration plusieurs fois. Par exemple, pour réclamer des élections apaisées, toutes les femmes de toutes les confessions religieuses, de toutes les organisations féminines, de tous les partis politiques, se sont mobilisées en tant que femmes.
Mais est-ce que votre voix est écoutée? Vous avez organisé des manifestations. Par exemple, on a eu des cas de féminicides. Mais on ne voit pas la solidarité féminine très, très mobilisée pour vos causes. C'est ça la question.
Je ne sais pas comment vous voulez que cette solidarité féminine soit démontrée. À partir du moment où l'ensemble des femmes...
même les élections. Hein, combien de femmes sont députées aujourd'hui?
Les femmes sont nombreuses. Est-ce que vous êtes solidaires pendant...
C'est ça la question.
Je pense que c'est une erreur de toujours mettre en avant ce qui divise plutôt que ce qui rassemble les femmes. Après tout, quand les femmes se mettent ensemble, c'est un groupe social qui se compose, et dans tout groupe social, quel que soit ce groupe-là, il y a toujours des antinomies. Mmh. Cela veut dire que ce sont des êtres humains, comme le disait un sociologue très réputé, Durkheim, disait que la société, ce n'est pas seulement une somme d'individus, mais c'est différentes pensées, c'est différentes manières de faire. Ce sont des individus qui ont différentes manières de voir, qui se mettent ensemble, mais qui recherchent souvent un objectif commun. Et ça, les femmes l'ont toujours fait. C'est une erreur de penser que l'OFCE est à part, les femmes leaders sont à part, tout et tout. Ouais. Pourtant, sur les ondes des radios nationales, on a toujours entendu la voix des femmes. Et à chaque fois qu'un de ces organes organise une activité, c'est toutes les autres organisations féminines qui sont concernées. Maintenant, en termes d'impact, vous l'avez si bien dit, la question de solidarité pour les élections, n'oubliez pas qu'il y a des pesanteurs politiques qui sont très, très, très forts dans notre pays. Et les élections, c'est une question politique. C'est une question politique en ce sens que les femmes ont déjà pris conscience du rôle qu'elles peuvent jouer dans le pays. Nous avons eu l'occasion de former au moins 300 candidates potentielles. Je dis bien 300 candidates potentielles. C'est une première dans notre pays, de tous les partis politiques confondus, même si au niveau politique, on nous a indexés en pensant que nous ne voulons pas qu'un homme soit élu à la tête du pays. Ça, c'était une lecture erronée. Et pour les élections locales, nous allons reprendre le même message. Il faut plusieurs femmes dans les mairies pour amener une transformation dans notre pays. Donc, cette solidarité, lorsque les femmes se retrouvent sur le terrain, face aux violences qui sont exercées par les hommes, souvent, nous, les femmes même, nous sommes impuissantes devant ces pesanteurs politiques, devant ces violences que nous ne pouvons maîtriser.
Oui, Madame Sombo.
Oui, je veux intervenir pour abonder dans le même sens que Madame Ekomo, et pour apporter un exemple précis de la solidarité qui a joué entre les femmes. Et j'ai été la première surprise. Parce que je vous avoue que moi aussi, des fois, je suis assez découragée. Vous savez, je peux en parler parce que le Haut Conseil de la communication a fait un travail remarquable et il faut le dire pour que ça puisse se poursuivre. Un certain monsieur Eloge Coy, dit Doc Trouvé, avait tenu publiquement sur les voies, le réseau social Facebook, des propos insupportables par voie de vidéo, audio, à l'encontre d'une dame, Lingobé Yvette. Hein, ses propos étaient insupportables. Dans leur grossièreté, elle touchait toutes les femmes. J'ai été constituée par cette dame et indépendamment de cela, j'ai été invitée par l'organisation All-In.
Aline
m'a demandé qu'est-ce qui avait lieu de faire. Je leur ai dit que ça concerne toutes les femmes. Ça, vous insultez une mère, ce sont toutes les mères que vous insultez. Eh bien, je suis vraiment ébahie et très satisfaite de la réaction du Haut Conseil de la communication qui a fait interdiction à ce monsieur, je pense pour une durée précise, de publier quoi que ce soit. Et la procédure judiciaire sous son cours. Là, vous voyez, c'est pour vous dire que là, la solidarité a vraiment joué et c'est satisfaisant. Concernant la sensibilisation des femmes, il faut arrêter effectivement de n'avoir pour public que ces femmes qui occupent la sphère politique. Pourrions-nous parler des femmes courageuses, Waligara? Vous savez combien de personnes ces femmes-là entretiennent? Il faudrait qu'on arrête un peu avec poste de ministre, poste de directeur, poste de député. Parlons des vraies femmes qui font que nous arrivons à vivre, que nous achetons des légumes en ville. Ça les fait se réveiller à 2-3 heures du matin pour s'approvisionner. Pareil pour le gibier. Je pense qu'il faudrait que l'OFCA le faisait. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. C'était ce groupement de femmes-là qui était la base de l'organisation des femmes centrafricaines.
Est-ce que l'OFCE a déjà une présidente ou bien c'est l'ancienne présidente qui reste encore qui est devenue ministre?
Je ne sais pas comment est organisée cette institution.
La présidente est devenue ministre aujourd'hui.
La présidente est Madame Indoua, l'actuelle présidente de l'OFCE. C'est Madame Indoua.
Cette organisation regroupait toutes ces femmes, était soutenue par toutes ces femmes. Et il faut leur rendre hommage. Les Waligara, celles qui elles sont créatrices de revenus pour l'immédiat. Est-ce que vous savez que moi j'avais inscrit ma fille à tartiner chocolat, hein? Pour moi c'est un sacrifice, j'avais aussi un peu de moyens, mais il y avait la mère d'une élève qui était vendeuse au marché, hein? Et c'était un sacrifice qu'elle consentait, elle payait à son rythme, elle préférait même venir payer par jour pour pouvoir assurer la scolarité de son enfant. Il y en a comme ça plein d'exemples. Donc il faut rendre hommage à ces femmes, hein, à ces femmes qui ne sont pas visibles dans les sphères, de hautes sphères, mais qui pourtant permettent le développement de notre pays.
Madame. Oui, je voudrais relever qu'au niveau économique, les femmes sont mieux organisées que les hommes dans ce pays. Aujourd'hui, ce week-end-là, vous allez voir que les femmes vont se retrouver pour des tontines. Et elle brasse de l'argent. Et lorsqu'on a fait les statistiques des activités, les AVEC, je pense que la plus grande majorité est constituée de femmes. Donc, elles sont en train de s'organiser. Nous sommes en contact avec ces femmes-là, que ce soit à Bangui, comme en province. Et ne nous déconnectez pas des autres femmes parce que nous existons aussi au niveau rural. Nous avons, par exemple, si vous voyez les femmes députées, beaucoup viennent des provinces. Vous prenez Maître Doras de Bossangwa, Gambo de Bossangwa, Epaï de Bouka, de Nola, Anola, Abayanga, Andele. Ces femmes-là, elles se sont battues dans des conditions difficiles, mais elles représentent ces femmes, celles qui sont dans l'arrière-pays. Donc, nous ne sommes pas déconnectés des autres femmes. Nous connaissons nos réalités. Et nous avons pour mission de faire le plaidoyer pour que ces femmes-là soient prises en compte.
Mais lorsque vous avez évoqué la question de ces femmes, les vendeuses, les praticiennes de petits commerces ici, que fait le gouvernement pour les accompagner dans ce sens?
Mais le gouvernement met en place des stratégies. Il faut du temps. Vous voulez que tout se passe.
Les stratégies,
par exemple. Vous voulez
Vous voulez que tout se passe dans la rapidité?
Non, pas dans la rapidité, non. Mais est-ce que mais c'est un secteur, c'est un secteur bien
des. Nous sommes en train de nous organiser progressivement pour que ces femmes-là soient visibles et qu'elles s'accrochent dans le. Et c'est dans le cadre de notre RCPCA. Et même lorsque on rédigeait le RCPCA, nous nous sommes mobilisés pour lancer un appel pour table ronde de Bruxelles. Nous sommes présentes partout, même si on ne nous voit pas, même si on ne nous entend pas. Quand vous repartez à la maison, les femmes sont là et c'est elles qui gèrent. C'est elle qui gère. Donc, ne nous divisez pas. Ne dites pas que nous avons, il y a des femmes qui sont dans des sphères. Non, nous nous complétons partout où nous sommes. Au niveau rural, au niveau urbain, au niveau politique, au niveau de la société civile, au niveau économique, nous nous complétons et nous identifions les compétences qu'il faut pour intervenir et défendre le droit des femmes.
Et si ça vous va bien, vous allez sur les barrières, vous avez les femmes Wali Gara, comme a dit Madame Kouchombo-Dibélé. Il y en a qui viennent et qui se confrontent à ce phénomène de Biyina Sembe ou bien de formalité autre. Tout ça, c'est pourquoi on dit que fait le gouvernement pour les accompagner, parce que vous l'avez déjà évoqué.
Vous disiez que quand nous organisons les activités, c'est à que les femmes de la haute sphère qui sont concernées et que les autres ne le sont pas. Et c'est ce que je voulais relever. Pour ce qui est des raquettes sur les barrières, ça fait partie des dysfonctionnements de notre pays où les hommes en tenue s'érigent en je ne sais quoi. Et donc, c'est cela qu'il faut corriger.
Madame.
Armando, vous ne m'avez pas laissé le temps de répondre à la question que vous m'aviez posée. Quand on parle du leadership féminin, on ne voit que les femmes d'un certain niveau. C'est une fausse perception. Vous voyez, les femmes en Centrafrique sont en contact, celles de Bangui sont en contact avec celles des provinces. Nous avons, dans le cadre de Aolin et dans le cadre de nos diverses organisations, mis en place des antennes sur tout le territoire centrafricain, enfin du moins dans toutes les 16 préfectures, quand c'était encore à 16 préfectures. Et donc, nous sommes en contact avec ces femmes-là. Je voudrais ici, sur cette antenne, vraiment saluer la bravoure de ces femmes. Je voudrais relever la résilience de ces femmes. Elles n'ont pas attendu que le gouvernement mette en place quelque chose pour les soutenir. C'est vrai. Le paradoxe, c'est que nous avons connu plusieurs années de conflit et il n'y a pas encore un programme d'autonomisation de la femme qui soit opérationnel pour pouvoir soulager ces femmes, les aider à reconstituer leurs capitaux. Mais il y a du travail qui se fait au niveau des femmes elles-mêmes. Elles n'ont pas croisé les bras. Ce sont des victimes, mais elles ne continuent pas de se comporter en victimes. Elles sont devenues aujourd'hui actrices de leur propre relèvement et du relèvement de leur communauté. Elles sont mobilisées. Je prends un exemple au niveau de Bria, où il y a des zones qui ont été fortement touchées par les conflits, mais les femmes sont debout à travers les tontines, à travers le maraîchage, à travers l'agriculture, à travers leurs initiatives personnelles, elles se prennent en charge. Hier encore, je parlais avec l'une d'elles, elle me parlait des semences, parce qu'elles ont besoin des semences pour renforcer leur production. Vous voyez, c'est la même chose au niveau de Bangui. Les femmes sont actives dans les tontines, dans les avecs. Elles se battent pour se prendre en charge elles-mêmes. Et il va falloir parler de ces femmes-là. On n'en parle jamais. Mais nous allons continuer. Moi, j'aurais souhaité que la parole soit régulièrement donnée à ces femmes-là sur les antennes de Ndekeluka et sur les antennes des autres médias pour qu'elles parlent vraiment, pour qu'elles parlent des efforts qu'elles sont en train de faire. C'est grâce à ces femmes que la population centrafricaine survit. C'est grâce à ces femmes que les enfants peuvent encore aller à l'école. C'est grâce à ces femmes que nous pouvons encore avoir de quoi manger, même s'il y a l'insécurité un peu partout. Mais ces femmes bravent tous ces obstacles. Elle se lève tôt le matin, à 5 heures du matin, pour aller chercher la nourriture, pour soutenir leur famille, pour nourrir la population. On doit parler de ces femmes. Et nous sommes en contact avec ces femmes.
C'est pour cette raison que nous vous invitons aujourd'hui pour parler de la question. Et c'est vrai, il y a certaines questions qui peuvent vous choquer, mais je suis désolé, c'est de la réalité.
L'avocat du diable.
Pour que nous comprenions la réalité de ce qui se passe, la parité homme-femme ou bien le fameux slogan 50-50 serait-il atteint, Madame Sombo-Dibélé?
D'abord, il y a plus de femmes en Centrafrique que d'hommes.
C'est ça. Dire,
non nous sommes la plus grande. Nous sommes plus majoritaires.
Minoritaires.
Il doit avoir 51 ou 52, non Exactement, minoritaires dans les instances de décision. Voilà, là, vous faites bien la différence. Lorsque Madame Ekomo parlait de la contribution des femmes au développement économique, social,
Je suis tout à fait d'accord. Vous parlez de l'absence des femmes dans les instances de décision. Oui, il y a une absence criante. Ou alors lorsqu'elles sont là, je pense, je me constate que souvent c'est pour faire tapisserie.
Non, pas forcément.
Il me semble. Ça c'est ma conception. C'est ce que je remarque.
C'est un remplissage.
Il y a un très petit nombre de femmes qui s'imposent. Peut-être que Madame Bou est de celle-là. Mais bien souvent, lorsque vous avez une femme à un poste de responsabilité, elle ne prend pas ses responsabilités.
Il n'y a pas que les femmes, les hommes aussi ne prennent
bien
pas.
Bien sûr, mais nous parlons des femmes. Nous parlons de notre corps. J'en connais. Hein. Oui. Nous parlons des femmes. Oui. Vous voyez, elles deviennent caisses de résonance. Oui. On ne peut pas développer un pays, on ne peut pas développer un secteur si on ne peut pas apporter la contradiction. Lorsque vous avez des collaborateurs, c'est pour qu'ils disent sincèrement ce qui ne va pas. Tout va très bien, Madame la Marquise. Tout va très bien. Le château brûle, mais tout va très bien. Non, vous savez, l'homme qui admet, l'homme avec grand H, la contradiction, c'est l'homme qui veut le développement. Mais lorsque vous voulez que tout le monde vous dise que vous êtes le plus beau, que vous êtes le plus fort, que vous êtes le plus intelligent, mais il n'y aura pas de développement. On ne vous aidera pas. On ne vous aidera pas. Donc, moi, ce que je reproche à un grand nombre de ces femmes qui sont à des postes de responsabilité, c'est de ne pas prendre leurs responsabilités. C'est d'être là, en fait, soit pour faire tapisserie, soit pour avoir le moyen de s'habiller, de se présenter, mais je ne vois pas leur impact dans certaines institutions. Et ça, c'est regrettable. Je ne veux pas toujours critiquer. Vous avez Madame Edith Vacat, qui est au Conseil de la communication. Je tiens à lui tirer mon chapeau, parce que je pense qu'elle était avec nous à la réunion lorsqu'on parlait de cette dame-là qui avait été injuriée, et donc de toutes les dames qui ont été injuriées, parce que vous insultez la mère de quelqu'un, vous insultez toutes les mamans, à commencer par la vôtre. Parce que c'est une femme qui met les hommes au monde. Ça, c'est ce qu'il faudrait comprendre. Ça a été très choquant, donc je lui tire mon chapeau, je la félicite, je m'étais dit que je le ferais en public, vous m'avez donné l'occasion, Armando, donc je félicite. Et donc, non, il faudrait que les femmes s'assument, il faudrait à moins qu'elles aient peur, à moins qu'elles n'aient pas le niveau. Mais à ce moment-là, je ne sais pas quel est le critère qui a prévalu à leur choix.
Oui.
Madame, comment ?
Je rebondirai sur les propos de Maître Sombodibélé. En principe, les femmes qui sont promues à des postes de responsabilité dans notre pays doivent être toutes des ambassadrices pour la promotion de la parité dans notre pays. Malheureusement, on a connu des situations sues vraiment du public, hein. Des femmes qui occupent des postes de responsabilité qui se sont transformées en censeurs de la promotion du genre dans notre pays. On en a vu même qui ont excellé.
C'est quoi l'exemple, par exemple ?
Sans citer.
On ne cite pas les contemporains. Je donnerai juste un exemple de situation. Des femmes leaders qui sont devenues des sujets d'adversité de la part d'un membre du gouvernement qui dirige le département des femmes et qui refuse de collaborer avec ces femmes. Une autre femme a un niveau de responsabilité très élevé qui se permet de détruire le leadership d'une femme ou bien des jeunes filles de notre pays. Et ça, tout le monde l'a su sur les réseaux sociaux.
Je l'attendais là.
C'est différent. Sur la question de solidarité, nous avions parlé de la solidarité en général entre les organisations féminines. Mais nous sommes en train de parler des cas d'exception, des femmes qui sont promues à des niveaux de responsabilité et qui constituent des freins réels à la promotion de la parité et du leadership féminin dans notre pays.
Ces femmes peuvent constituer aussi des freins, un frein pour le développement.
Mais heureusement, elles ne sont pas nombreuses. Heureusement qu'elles ne sont pas nombreuses. Nous avons par exemple Madame Mboua Doumta, qui a toujours été avec nous dans les organisations féminines, bien qu'elle soit promue au niveau du gouvernement, mais elle reste active à notre niveau pour soutenir le leadership féminin. Et nous souhaiterions qu'il y ait plusieurs cas comme ça. Nous avons au niveau de la Cour constitutionnelle, la présidente de la Cour constitutionnelle, qui a soutenu les femmes lorsqu'il s'agit de réagir contre les injures profanées par ce monsieur Doc Trouvé. La Cour constitutionnelle a eu à réagir par rapport à la protection des droits de la femme. Donc, il y a des exceptions, heureusement.
Mais le problème, c'est que, vous savez, un seul fruit pourri suffit à pourrir tout un panier de fruits. Hein. Il n'y a pas besoin de beaucoup de... Vous savez, le négatif a des effets rapide. Voilà pourquoi il faut absolument que ce type de personne soit recadré. Si cette personne-là s'entende, elle se reconnaisse et qu'il faut qu'elle soit recadrée. Parce que vous savez, Monsieur Armando disait tout à l'heure, je l'avais compris lorsqu'il parlait de l'absence de solidarité, il y a cet égoïsme qui nous anime en Centrafrique. Il ne faut pas se voiler la face. Lorsque une femme accède à un poste de responsabilité, à un haut rang, ça y est, après moi, c'est le déluge. Vous voyez ? Et les autres n'ont plus voix au chapitre. Moi, j'ai eu à subir ça pendant certaines époques où il y avait des rassemblements de femmes. J'étais invité pourtant. J'ai eu beau lever mon doigt, ça se passait à la CEMAC, on préparait les élections. J'ai eu beau lever mon doigt, personne ne m'a donné la parole. Et pourtant, puisque j'ai l'occasion de le dire aujourd'hui, je posais la question de la sécurité. Nous allons aux élections, mais quid de la sécurité ? Eh bien, on a vu ce qui s'est passé concernant la sécurité. Non, il faut vraiment, lorsque certaines femmes ont la possibilité comme ça de pouvoir faire parler leurs consoeurs, que l'on entende tous les sons de cloche. La critique, elle est faite pour bâtir.
Mais le vrai problème, c'est ce à quel niveau ? Est-ce que c'est une question de conflit d'intérêts, de compétences ? Est-ce que c'est quoi le vrai problème entre les femmes qui peuvent pousser les autres, mais qui jouent par exemple à un frein pour l'émancipation des autres ?
C'est une question de mentalité.
Moi, je pense que c'est une question de complexe.
Oui, de complexe.
Et souvent d'infériorité.
Parce que
lorsque vous êtes à l'aise dans votre peau, lorsque vous connaissez vos capacités, aussi moindres soient-elles, Madame Domitien n'était pas une intellectuelle, mais elle prenait enseignement chez les autres. Elle avait du bon sens. Je ne parle pas de diplômé. Je parle d'être à un poste où on est responsable et d'écouter. Vous savez, un ministre n'est rien sans ses cadres. Le poste de ministre est un poste éjectable. J'en sais quelque chose. Mais lorsque vous arrivez dans un ministère, vous devez vous appuyer sur ceux qui sont dans ce ministère depuis longtemps et qui connaissent et qui maîtrisent. Et ce sont ceux-là qui vous permettent d'avancer. Mais vous estimez que c'est vous, parce que vous avez été l'élu du ciel, qui connaissez tout et qui mettez tout le monde contre vous, il y a problème. Voilà pourquoi
Combien sont-elles aujourd'hui dans les instances de décision de haut niveau, ces femmes, des chefs d'entreprise on parle seulement que du gouvernement, mais il y a des chefs d'entreprise. Combien sont-elles aujourd'hui des directeurs, au poste de directeur général, etc., etc. On les compte au bout du doigt, les femmes. Madame Mambois.
Oui, mais comme nous l'avons dit, c'est un processus qui a besoin d'être renforcé. Et c'est pour ça que nous parlons de courage, nous parlons de détermination au niveau des femmes, afin qu'elles s'affirment. C'est notre affirmation qui va faire que nous allons avancer et ne pas trop tenir compte des petits conflits. Parce que les petits, ça nous divertit de notre mission. Il faut regarder, aller à l'essentiel. Parce que dans tout ce que nous faisons dans la vie, il y a des objectifs. Il faut regarder vers les objectifs, regarder vers les résultats. Et surtout, ne pas nous laisser divertir par les comportements de X ou Y. Donc, je pense que nous qui sommes dans notre rôle de leadership, nous avons une vision, nous avons le respect surtout de la loi. Nous nous mettons du côté de la loi. Il n'y a rien qui puisse nous protéger plus que la loi. Il n'y a rien qui puisse nous mettre ensemble, nous faire avancer ensemble que la loi. Dès lors que nous sortons de la loi, c'est là où il y a désordre et il y a mésentente. Parce que normalement, dans la loi, il n'y a pas de favoritisme. Donc, moi, je pense que nous devons rester focalisés sur notre vision qui est de contribuer à la reconstruction de notre pays.
Oui, Madame Sombodibele.
Dans le même sens que ce que Madame Mboua disait, il y a des secteurs où les femmes sont courageuses. Moi, je vais citer un exemple. Vous avez Madame Marie-Claire Ignace, directrice de Tartines et Chocolat. Mais cette femme-là, ça a commencé, c'était une petite entreprise, C'était peut-être deux classes, une maternelle. Mais aujourd'hui, elle est allée jusqu'au niveau où on prépare les gens pour le bac. Donc, vous voyez, et ça se fait dans le silence. Il y a d'autres femmes aussi comme ça qui ont leur petit commerce, mais qui contribuent. En tout cas, elles contribuent au développement du pays dans la mesure où, dans le domaine, dans le secteur de l'enseignement. Voyez, dans le secteur de l'enseignement et un bon enseignement. Moi, je dois reconnaître qu'il y a un suivi sérieux. tous ceux qui vont dans ce domaine-là, qu'ils prennent exemple. Le monde ne s'est pas construit en un jour. Hein. Mmh. On commence par la base et petit à petit, et ça je peux le dire à l'instar de Madame Mboua, c'est le travail d'un gouvernement. Les choses ne se font pas en un jour. Mais il faut que chaque secteur de ce gouvernement, chaque ministère s'y mette pour que à l'issue des 6 ans qui nous restent, on voit les résultats.
Merci. Une question pour toutes ici sur ce plateau. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'instant pour espérer atteindre les objectifs parité homme-femme ou 50-50 ou bien 35% de cette loi de parité, Madame Ekomo?
Je crois qu'il faut encore une prise de conscience très, 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 très accentuée au niveau de tout le monde. Puisque la question de parité concerne tout le monde. Quand je dis tout le monde, les institutions nationales, les partis politiques aussi, le secteur privé, etc., etc. Et constatant aujourd'hui que 6 ans après la mise en place de la promulgation de cette loi, on est à moins de 20% de représentativité des femmes au niveau des instances de décision. Alors, nous avons 10 ans. Donc, ça fait 6 ans déjà. En 6 ans, on n'a même pas pu dépasser 50%. Il ne nous reste plus que 4 années.
Et pourtant, pourquoi ne pas atteindre les 35% tout en sachant qu'il y a quand même des ressources.
Je vais en arriver, Armando. Pour atteindre les 10 ans, il ne nous reste plus que 4 ans. Et il est important de relever que les 10 ans, c'était de parvenir à 35%. Et à partir des 10 ans, donc de 2026, il faut aller au-delà des 35% pour arriver 50-50. À 50-50 en 2030. Ça veut dire que nous sommes très en retard. Et donc, la prise de conscience dont je parlais aujourd'hui est que le gouvernement doit créer l'environnement favorable. Cet environnement favorable, c'est de prendre la question de parité, de promotion du genre, comme un investissement qu'il faut réaliser au niveau du pays. Un investissement sur les femmes et un investissement sur les jeunes filles.
Comment
en matière d'éducation, leur faciliter l'accès à l'éducation, l'accès aux soins de santé, l'accès à la formation. Et ça permettra d'avoir une bonne pépinière qui pourrait maintenant être renforcée pour pouvoir intégrer les différentes administrations de notre pays. Et au niveau des partis politiques également, c'est bien de toujours critiquer, mais ils ont aussi leur rôle à jouer, leur rôle de favoriser l'éducation des jeunes filles qui sont dans leur parti politique.
Et surtout de les encourager d'abord.
Et de les encourager, voilà. Et de les encourager. Donc c'est une question de responsabilité collective. Au niveau des organisations féminines, il y a le travail de sensibilisation, de mobilisation qui se fait. Mais nous avons un grand, grand, grand problème au niveau national, c'est que le gouvernement a mis en place de très beaux documents. Alors là, la République centrafricaine a des documents de référence qui sont même réclamés au niveau régional comme modèle. Mais la politique nationale de la promotion du genre. Et de l'équité. Mais nous n'avons pas les ressources nécessaires. Enfin, le pays ne met pas en place les ressources nécessaires pour l'exécution de ces documents
et donc
de politique.
Pour vous, c'est un manque de volonté politique.
C'est un manque de volonté politique pour résumer tout cela.
Madame, vous dites non
aux moyens. Je pense plutôt qu'elle parle des ressources. La volonté politique est là à travers l'existence de ces textes. Mais ce qui manque, c'est la mobilisation des ressources.
Mais l'application.
Non, mais ça va au-delà. La volonté politique va au-delà des ressources. Il y a une bonne volonté qui doit se manifester, par exemple, pour les postes nominatifs. Ça, c'est prévu dans la loi aussi.
Oui.
Donc, la volonté politique va au-delà des ressources.
Nous disons qu'au-delà des postes de nomination, il y a également la situation des femmes dans l'arrière-pays, dans les secteurs de santé, d'eau potable, et les mortalités, tout ça. Et pour cela, il faut la mobilisation des ressources. Et cette mobilisation s'est faite à travers beaucoup plus les organisations de la société civile et en partenariat avec. Nous avons des partenaires qui sont là pour nous aider aussi bien au niveau gouvernemental qu'au niveau de la société civile pour que nous puissions nous organiser et traduire nos plans de nos plans d'action en activités réelles afin que les femmes soient au courant
de leurs droits et qu'elles se lèvent là où elles sont pour se mobiliser également, comme ça se passe. Nous avons un très bon résultat à Ndélé. Nous avons un très bon résultat à Ndélé avec notre honorable Aziza qui a battu les traditions et tout, et qui aujourd'hui est en train de c'est ce qu'on appelle success story. Donc ces histoires de succès, nous devons les repiquer un
peu. L'inquiétude
partout
de Mme Ekomo, c'est que sur 10 ans, 6 ans passés, le pays est largement en retard.
Nous sommes en retard pour cause. À chaque fois qu'on avance, nous sommes recalés par des coups de feu à gauche et à droite. C'est cela. Donc c'est pour ça que les femmes insistent également sur le désarmement. Parce que nous voulons être tranquilles pour avancer. Mais tant qu'il y a des coups de feu à gauche et à droite, il nous sera difficile d'avancer. Donc, et nous faisons beaucoup de plaidoyer auprès de nos des groupes armés et pour qu'ils nous laissent avancer dans la direction
qui
que nous...
les nominations.
Non, je pense que les coups de feu ne peuvent pas bloquer la nomination des femmes à
cause de responsabilité. Je ne parle pas de nomination.
Il y a des femmes capables qui sont là, mais tout simplement parce qu'elles n'appartiennent pas à un parti politique donné, ou bien il y a beaucoup de raisons subjectives qui font que ces femmes-là ne sont pas promues. Et ce sont des compétences que le pays est en train de laisser moisir comme ça. Elles sont nombreuses.
Mais
ce ne sont pas les coups de feu.
C'est une question d'appartenance. Même si tu es compétente, tu n'es pas avec moi. C'est ce que vous voulez dire. Donc on ne doit pas te nommer.
Non, mais on n'a pas. Moi, je n'ai pas besoin d'être nommée pour m'activer à ce que je sais concernant les droits des femmes. Même en dehors d'une nomination, nous continuons toujours à travailler parce que nous sommes engagés pour cela. Si nous voulons attendre d'être nommés pour le faire, je pense qu'on ne fera jamais rien.
Et ma soeur qui est là, elle fait
du plaidoyer pour les femmes partout. Et ça, c'est pas question de nomination.
Madame Ekomo n'est pas du tout satisfaite. Est-ce qu'on vous
devez
qu'on évolue?
C'est son droit.
Coup de feu à droite et à gauche qui ont été aussi facilités par une certaine politique. Vous savez, quand vous mettez à table avec le diable, ne vous étonnez pas qu'il vous donne un grand coup de couteau. Non, bon, la politique était un peu maladroite concernant la sécurisation du pays. Parce que moi, j'ai toujours dit, lorsque le sacrifice est fait au détriment de la population pour assurer sa sécurité, en faisant la promotion de ceux qu'aujourd'hui on pourchasse, voilà à quoi ça nous mène. Les amis d'hier sont devenus les ennemis d'aujourd'hui, mais entre-temps, la population a payé le prix. Cette loi
de parité,
elle aura du mal à s'accomplir en atteignant les 35% dans 6 ans. Ça, on en est bien conscient. Mais je pense qu'il faut nécessairement qu'il y ait formation. Déjà, formation au niveau scolaire, ça c'est capital. Parce que, voyez, les jeunes filles, quelle est l'image qu'on leur donne d'un poste de responsabilité? Ce n'est pas l'image de prise de décision, ce n'est pas l'image d'un leadership efficient, c'est l'image d'un défilé de mode pour la plupart, c'est l'image d'être arrivé. Et le plus regrettable, c'est l'image qu'on devient madame un tel, copine, à maîtresse, c'est regrettable. C'est regrettable. Vous avez la jeune, elle s'appelle Doran, la responsable de l'organisation des jeunes, de la jeunesse, là. C'est ça son nom?
Pamela Derham.
Voilà. Moi, je la félicite. Parce que j'ai ouï dire qu'elle postulait à l'extérieur pour représenter la jeunesse. Mais c'est ça. Ça, c'est une bonne image qu'elle donne. Elle donne, c'est un combat. Il faut sortir du secteur national pour aller se faire entendre à l'extérieur. C'est comme ça qu'on fait la promotion de la République centrafricaine. Vous savez, j'ai fait un commentaire dans la presse en ligne de Madame Lydie Zengoukoumat, où elle demandait qu'est-ce que c'est le 8 mars pour vous. J'ai dit que c'est déplorable l'image que l'on donne en Centrafrique de ce que le combat de la femme semble se limiter à la positionnement dans un foyer. Je suis la 4e, je suis la 5e, je suis la 8e, on m'a doté. C'est pas ça, on s'en moque de ça. Ça, c'est la vie privée des gens. On ne devrait pas donner cela en pâture pour que les gens estiment que pour réussir dans la société, il faut être la 1e épouse de quelqu'un. Pour réussir dans la société, moi, je pense qu'il faut apprendre aux jeunes filles qu'elles doivent se battre, qu'elles doivent arracher leur liberté, qu'elles doivent gagner leur indépendance. On n'a pas à attendre que ce soit un homme qui vous donne une enveloppe pour que vous puissiez vous acheter des habits. On n'a pas à attendre que ce soit un homme qui vous donne une enveloppe pour que vous puissiez vous nourrir. Vous comprenez? Ça, il faut que ça sorte de l'esprit des jeunes filles centrafricaines. J'ai une jeune fille très jolie qui est venue demander du travail chez moi. J'étais étonné. Mes filles l'appellent même fonctionnaire. Tellement elle est jolie. Vous savez pourquoi elle a demandé du travail de bonne? Parce qu'elle se rendait compte
qu'elle était maltraitée. Eh bien, je l'admire. Moi, je félicite ce genre de dame. Elle aurait pu se vendre. Hein. Elle est très jolie. Elle est très jolie, de tête comme de corps. La courbe, comme on dit là. Mais elle a préféré choisir d'aller faire un travail de bonne à domicile plutôt que d'aller se vendre. C'est cet exemple-là que je voudrais donner aux jeunes centrafricaines. Il vaut mieux souffrir avec un objectif. Elle est étudiante, hein, parallèlement.
Madame, voilà. Ça vous va? Est-ce qu'on peut mettre fin ici?
Il n'y a pas de problème. J'ai
et
déjà
c'est la fin de ce débat d'aujourd'hui consacré au respect de la loi de parité en République centrafricaine. Merci à toutes et à tous d'avoir été des nôtres. Et merci aussi à nos invités, Arlette Sombodibele, avocate et membre de la société civile, ancienne ministre des Eaux et Forêts. Madame, merci.
Merci Armando.
Merci aussi à vous d'être venue, Madame Lina Ekomo, présidente du réseau des femmes leaders du Centrafrique, ancienne ministre.
Merci Armando.
Merci aussi à Madame Léa Mboua-Doum, ministre de commerce en ce moment et plusieurs fois ancien ministre et ancienne vice-présidente du Conseil national de transition. Madame, merci d'avoir participé à ce rendez-vous.
Je suis aussi coordonnatrice Aouline.
Aouline, ah oui, c'est encore très grave que ça. Ça, c'est en anglais. Hein,
African Women Leaders Network.
Ah, ça, c'est très bien. Voilà. La partie technique était assurée par Anne-Alix Pounemati, Armand Nguindi. C'est moi. Vous pouvez maintenant réécouter cette émission en podcast sur www.radiondekeluka.org. Il ne me reste qu'à vous souhaiter bon week-end et prenez bien soin de vous car on ne vit qu'une seule fois dans la vie.
Eh oui.
À la semaine prochaine, même heure et même fréquence. Au revoir.